Madame Morano, au retour de deux jours particulièrement détendus passés dans l'insouciance et la rupture la plus totale avec le monde médiatique, je reviens à la surface, dépitée, à la fois perplexe à la vue du tollé que votre coup de gueule a pu susciter. Il faut dire que votre regard, inquiété et un brin paternaliste à l'égard d'une femme voilée qui a fait le choix de rester assise sur le sable plutôt que de se baigner, n'est pas resté inaperçu et pour cause, l'appétit insatiable de vos lecteurs pour ces sujets si facilement attractifs. Voyez-vous, Madame Morano, votre réflexion à tout ce qu'il y a de plus dérangeant, dans la mesure où, une fois de plus, une fois encore, dans ce zoo médiatique qui nous sert d'amusette au goûter, la femme à robot musulmane est un beau sujet à exploiter. Là où même la laïcité de la France n'est pour une fois pas en droit d'attaquer cette femme qui porte un foulard dans un espace public, c'est sous prétexte de militantisme féministe que vous vous lancez, et de philosopher sur sa situation de femme soumise. Ne vous a-t-il pas traversé l'esprit, l'espace de quelques secondes soit-il, de vous approcher de cette femme et de lui parler, d'affronter vos préjugés à ses propres convictions? Car là où pour vous il n'y a qu'une idéologie monolithique de ce que devrait être la femme, de ce qui devrait apparaître de son corps, j'ai de mon côté la ferme conviction que la femme ne devrait jamais être. Elle est, et elle choisit seule ce qu'elle est au-delà de toute imposition et de tout jugement. En somme, les féminismes auxquels je crois sont pluriels, ils sont inclusifs et jamais discriminants. Vous avez décidé d'opposer la vision de cette femme à celle d'une Brigitte Bardot jeune et en maillot de bain, vous pourrez essayer de me convaincre qu'elle représente notre émancipation et notre affranchissement. Néanmoins, cette icône dont vous parlez, celle-ci même condamnée à 5 reprises pour incitation à la haine raciale, ne peut être mon référent tout simplement car je ne pourrai jamais m'identifier à celui ou celle qui s'en prend à mes convictions dans ce qu'elles ont de plus sacré à mes yeux. Moi, jeune femme française de confession musulmane et éternelle insoumise.
Féministe islamique. Être féministe au sein de la religion musulmane. Charlotte Bien-Aimée, Annabelle Brouard, sur les docks.
Ce féminisme existe, c'est pour dénoncer justement toutes les interprétations patriarcales qui ont été faites et qui ont été sacralisées, et de ce fait, on marginalisait justement les textes, et du coup, on a eu cet amalgame entre texte et interprétation, et aussi bien les gens qui ne connaissent pas l'islam que les gens qui revendiquent cette interprétation patriarcale ont décidé que c'était que l'islam, il n'y a pas d'égalité, qu'en islam, ce sont les hommes qui sont supérieurs. On a du mal à voir féminisme et islam et femmes dans une seule phrase, et on a l'impression que normalement ils doivent s'opposer. J'estime qu'on a le droit en tant que femme musulmane d'adhérer à un féminisme que j'appellerais universel, mais j'ai le droit aussi de revendiquer un modèle qui est le mien, qui correspond à celui de mon contexte. Et en réinterprétant les textes, et surtout les interprétations machistes qui ont été faites, on déconstruit cette culture donc d'infériorité, cette culture de supériorité des hommes, en essayant de démontrer que ce n'est pas le message spirituel de l'islam qui opprime les femmes, mais bien les interprétations qui ont été faites pendant des siècles et des siècles. Donc le travail est assez difficile, parce que les mentalités se sont habituées à voir le sacré comme quelque chose d'immuable. Donc on leur démontre que ce n'est pas vrai, ce ne sont pas les textes qui disent ça, mais ce sont les interprétations humaines. Donc c'est cette relecture-là qu'on est en train de faire pour faire la part des choses.
Elle porte le voile et se revendique féministe. De l'Égypte à l'Iran, du Maroc à la Syrie, en France, aux États-Unis et jusqu'en Malaisie, des intellectuels, des chercheuses et des militantes s'inscrivent dans une démarche féministe à l'intérieur du monde religieux musulman. Elles disent se démarquer fermement des courants conservateurs islamistes qui adopteraient uniquement un discours féminin de défense de l'islam. Parmi elles, la Marocaine Asma Lamrabet. Depuis son centre d'études à Rabat, elle est devenue une référence pour de nombreuses féministes islamiques.
Là où sommes-nous ?
C'est le Centre d'études féminines en islam. C'est un centre qui est affilié à une institution religieuse officielle qui s'appelle l'Arabita des Oulémas du Maroc. On a des chercheurs en sciences sociales qui font un travail sur le terrain et des chercheurs en sciences islamiques qui font le travail sur les textes. Donc ça, c'est notre jeune spécialiste qui est féministe, qui est diplômée en religion comparée.
Bonjour.
Voilà,
bonjour.
C'est très important parce que généralement l'islam est considéré comme ayant le prix d'excellence de l'oppression des femmes. Et on oublie que dans toutes les traditions religieuses, l'oppression des femmes, l'infériorité des femmes est la règle. Donc l'islam ne sort pas de la norme. Et donc interpréter ce que disent les trois religions, c'est sortir de cette stigmatisation, des stéréotypes qui font que les musulmanes sont les seules victimes des religions. Donc prouver le contraire justement et passer par ces textes pour essayer de les réinterpréter et voir où sont les failles. Pour moi, une avancée spectaculaire serait d'interdire la polygamie, même si elle reste très symbolique sur le plan du pourcentage. Mais dans le Coran lui-même, parce qu'il y a trois versets, il y a un verset qui stipule que, bon oui, pour protéger les orphelines, on peut se marier avec un, deux, trois, quatre femmes. Et puis après, un autre verset qui stipule qu'il faut être juste entre eux. Et puis un troisième qui dit, vous ne pourriez jamais être juste, donc il faudrait se suffire d'une. Donc la monogamie est la norme en islam. Mais le fait que c'était une société tribale patriarcale où la polygamie était la norme. Toute la lecture qui a été faite après est une lecture qui a, si vous voulez, gardé cette coutume-là, qui est une coutume d'Arabie et qui continue jusqu'à présent.
Et qu'est-ce que dit l'islam pour le port du voile ?
Alors oui, ça c'est une question qui, je comprends, surtout en France, avec toute la polémique qui est désolante, franchement c'est très triste par rapport à tout ça. Et donc, moi, ce que j'essaie de faire passer comme message, et je le dis dans mes écrits, c'est que le voile n'a jamais été une prescription coranique. Il faut être très clair par rapport à ça. Alors, donc, s'il y a liberté, quand je dis par rapport à la foi, eh ben, encore plus avec le voile. Donc, le voile, c'est un constat que faisait le Coran à un moment donné de l'histoire de l'islam, où on a demandé aux femmes, comme aux hommes d'ailleurs, on demande une certaine pudeur, une certaine esthétique de la décence, qui fait partie donc de toutes les religions. Dans toutes les religions, il y a une certaine pudeur dans l'esthétique et dans la façon de s'habiller et d'être, mais qui ne passe pas obligatoirement par ce voile-là. Ce foulard, on peut le porter ou pas le porter, mais ça ne fait pas partie ni des piliers de l'islam, ni des prescriptions coraniques des plus importantes. Et je dénonce ici le discours de la majorité des musulmans, qu'ils soient penseurs ou théologiens, quand ils disent que c'est une prescription coranique et qu'ils continuent par « elle a la liberté de choix », ce n'est pas vrai, parce qu'on culpabilise ces femmes musulmanes qui ressentent cette culpabilité et se sentent obligées, même si elles disent, même si elles sont dans la liberté soi-disant, c'est vrai qu'elles le font contre leurs parents, contre etc., mais elles sont dans cette culpabilité. Donc il faudrait être très clair par rapport à ça. Et le jour où elles le porteront, justement, parce que ce n'est pas une prescription coranique, mais elles veulent le porter par spiritualité, là je respecterai, enfin je dirais que oui, nous sommes dans la liberté de choix pour les femmes.
Est-ce que vous êtes écoutée, les autorités religieuses de votre pays ?
Ben écoutez, le fait que je sois quand même, je dirige un centre qui est au sein d'une institution religieuse, ça fait 4 ans qu'on est là, c'est déjà une porte qui a été ouverte. Je ne pense pas pouvoir vivre et voir tout ceci se transformer en réalité. Mais moi, je pense qu'il y a des choses qu'on peut dire aujourd'hui qu'on ne pouvait pas dire il y a 10 ans. C'est une évolution. Et je pense que même si le discours, ce genre de discours reste minoritaire, il a beaucoup d'avenir.
Apparu en Iran dans les années 90, le concept de féminisme islamique se développe en parallèle à divers endroits de la planète et dans la diaspora. Le courant est au départ le fruit de quelques individualités et représente avant tout un mouvement intellectuel et non social, ce qui le différencie des féminismes laïcs existants jusqu'alors. Depuis les années 2000, les féministes islamiques tentent de mettre en place un mouvement transnational. En France, elles sont avant tout des militantes de terrain qui s'approprient les relectures féministes du Coran faites par leurs collègues théologiennes. Elles veulent aussi intégrer les questions sociales et raciales à celles de la domination masculine, dans le but, disent-elles, de décoloniser le féminisme hégémonique.
Si féminisme veut dire lutter pour l'égalité homme-femme, oui, je suis féministe. Si féminisme islamique veut dire lutter pour l'égalité homme-femme en puisant dans ses sources islamique, oui, je suis féministe islamique. Quand je suis dans la communauté musulmane, forcément, je ne vais pas leur sortir un argumentaire laïque. L'argumentaire que je peux sortir qui peut marcher, c'est l'argumentaire du Coran et des hadiths. Et au niveau laïque, c'est l'argumentaire laïque qui sera mobilisé. Donc tout dépend du contexte et des lieux où on se trouve et l'argument qu'on trouve.
Quelle est la différence alors d'être féministe islamique ici et féministe islamique au Maroc, par exemple ?
Ce que je verrais comme différence, c'est que justement, on est dans un, au Maroc en tout cas, on serait dans une société où le religieux, enfin, qui est saturé de religieux. Ici, c'est l'inverse. Je pense que c'est peut-être qu'un seul combat. Quand on est au Maroc et qu'on lutte, ou en tout cas en Égypte, ça doit être un seul combat. parce que quand on discute avec les gens, c'est forcément avec les sources religieuses. Alors qu'ici, on peut être confronté à des machos, mais qui ne sont pas du tout religieux. Tu ne vas pas leur sortir le Coran, ils n'en ont rien à faire. Et puis, des fois, on est confronté à des machos, mais qui sont plutôt des musulmans. Là, il faut leur sortir le Coran. Les lois en France, aujourd'hui, prônent l'égalité homme-femme. Mais dans la vie de tous les jours, on sait très bien que personne ne les applique, à commencer par l'Assemblée nationale ou le Sénat, où il n'y a pas de parité, il n'y a pas d'égalité. On peut huer une femme ministre parce qu'elle s'habille en robe. Donc voilà. Après, quand on est avec un musulman, il a les lois laïques, mais il a aussi ses références religieuses. Et donc, on est obligé de faire avec les références religieuses.
Ndéla Paye a 40 ans. Elle porte un foulard rouge vif, noué à l'africaine, sur lequel elle accroche une grosse fleur en tissu. Comptable de formation, elle a récemment repris les études en langue arabe et en théologie musulmane, avant de s'inscrire à l'école des hautes études en sciences sociales, à Paris, dans un master de sciences sociales des religions.
C'est par curiosité et aussi des questionnements par rapport à la religion musulmane et le traitement des femmes que j'ai eu ce besoin-là d'aller étudier la religion. La langue arabe d'abord, pour comprendre le Coran par moi-même. Et puis après, les sciences religieuses. Au départ, je prenais des cours dans les mosquées. J'étais en résidence universitaire. On avait une salle de prière. Je prenais des cours avec des femmes. Et petit à petit, tout ce qu'on me disait par rapport au rôle de la femme en tant qu'épouse, en tant que mère, de plus en plus me dérangeait. Me posait problème. Et je me suis dit, c'est bizarre, quoi. Il faut vraiment que j'aille questionner ces textes-là pour savoir est-ce que c'est vraiment ça que ça dit ou pas.
Alors justement, qu'est-ce qui vous gênait ou qui ne vous plaisait pas ?
C'est le fait que pour la femme, la centralité se trouve autour de son rôle d'épouse et puis après de mère. Comme si une fois qu'on est mère et épouse, en fait, on n'était plus que ça. Alors que moi, ma place de femme était beaucoup plus centrale que le reste. Par la suite, quand je me suis mariée, j'ai essayé d'avoir un équilibre entre les trois. Par exemple, avant de me marier, on me présentait toujours le mariage comme voilà, qui est une femme qui doit s'occuper de son mari. C'est ce que j'ai eu d'ailleurs, au niveau même traditionnel familial. C'est ce que j'ai eu comme modèle. Un modèle de femme qui s'occupait de son mari. Le mari était là, les pieds sous la table. Et puis c'est les femmes qui faisaient tout. Donc c'est plutôt ça, les échanges que j'avais, c'était vraiment ça. Et je me disais, mais ça doit être ça, si je me marie, ça veut dire... Enfin, pour moi, c'était... Donc mariage était perte de liberté. Et c'est surtout pas ce que je voulais, quoi. Moi, ma liberté, elle était hyper importante, parce que ma croyance, justement, en Dieu, avait comme condition la liberté. Et pour moi, c'était pas possible que je croie en Dieu qui pouvait faire une différence entre deux de ses créatures. Je me suis dit quand même, comment est-ce qu'on peut dire qu'on adore un Dieu unique, mais qui crée des créatures, et en fait, dans ces deux créatures, il y en a un qui est au-dessus de l'autre. Vraiment, ça posait problème chez moi.
Ça n'a pas ébranlé votre foi ?
Ah non, par contre, à aucun moment, ça n'a ébranlé la foi. En tout cas, ma foi en Dieu, ça, j'étais sûre. Mais après, c'est l'expression de cette foi-là qui pouvait poser problème.
Et alors, donc, du coup, vous avez commencé à faire des études là. Qu'est-ce que vous avez découvert ? Vous avez trouvé des réponses ?
Bien sûr, énormément de réponses. Après, c'est même dans ces études, les différents profs qu'on a eus dans les différentes matières disaient des choses qui pouvaient paraître contradictoires. On se rend bien compte que dans le corpus, en fait, il y a énormément d'avis qui sont encore aujourd'hui cachés. L'obéissance, voilà, l'obéissance de la femme à son mari. Ça, c'est un truc qui est énormément mobilisé. Dans un des versets, je crois que dans Sourate Baqara, où on parle de Daraja, l'homme qui aurait un niveau supérieur à la femme. Et en fait, ce verset-là, on va le sortir de son contexte. On ne va pas regarder les versets qui viennent avant ni après. Parce que les versets qui viennent avant parlent en fait des problèmes de couple. C'est-à-dire, on arrive où on est en désaccord dans le couple. Et donc, quand on arrive à ce point-là, où c'est vraiment très très difficile, Dieu va demander dans le Coran... à l'homme, en fait, d'avoir un degré supérieur. C'est-à-dire, finalement, va lui demander de patienter plus. Et ce degré supérieur, qui est plutôt une responsabilité et non un privilège, va être interprété comme un privilège pour les hommes. Si jamais on est dans un couple où c'est plus la femme qui fait plus d'efforts, c'est la femme qui est au-dessus, tout simplement. Ce qu'on veut dire par là, c'est que quand il y a des conflits, le mieux, le plus proche de Dieu, c'est celui qui fait plus d'efforts. Et il y a des gens à qui ça fait peur. Oui, mais non, on n'a pas à changer le Coran, c'est aux époques de se changer. Mais non, le Coran, il est adaptable. La preuve, à l'époque du prophète, ce qu'on avait, c'était des chameaux pour voyager. Aujourd'hui, personne ne voyage en chameau. Je veux dire, on ne peut pas vivre à une époque qui est complètement différente de la nôtre.
Mais alors, est-ce que tout et son contraire ne peut pas être dit, finalement? Vous, vous voyez ça comme ça, et puis un homme qui est beaucoup plus dans un islam radical va le voir complètement différemment.
Mais pour moi, c'est ça la richesse, justement. C'est ça la richesse interprétative que Dieu nous laisse. Parce que dans tout ce qui est important, et primordial en tout cas pour nous, il n'y a pas cette interprétation. Les cinq piliers de l'islam, on est d'accord dessus. Personne ne revient dessus. On peut être hyper laxiste et à l'autre extrême, hyper rigoriste. Eh bien, on est d'accord sur ces cinq piliers. Le reste, finalement, la divergence porte sur 5%, mais qui prennent une ampleur...
Qui concerne beaucoup la femme.
Qui concerne la femme. Et du coup, c'est là où je demanderais aux femmes, justement, de s'approprier ces textes-là. C'est le fait de s'approprier ça qui libérera la femme. Parce qu'énormément de femmes, aujourd'hui, vivent ce statut d'être sous tutelle parce qu'ils sont convaincus que Dieu les met à ce statut-là. Que leur sort, leur salut sera assujetti à ce statut-là. Et donc, c'est qu'en apprenant vraiment c'est quoi la religion et qu'est-ce qu'elle permet. Moi, ce que je veux, c'est qu'on choisisse en toute liberté. L'histoire du foulard, je sais que ça pose énormément de problèmes, mais se rendre compte qu'il y a énormément de savants qui remettent en question l'obligation du foulard, par exemple. Ça ne m'empêche pas de le porter, hein, parce que je ne fais pas les choses que par obligation. Mais très peu de personnes ont envie de savoir que ces avis-là existent. On entend tellement sortir que le Coran, il est clair là-dessus, il a dit que c'était obligatoire, point barre. Et en fait, les versets ne sont pas aussi clairs qu'on peut le prétendre. Il faut les montrer aux gens. Et j'ai l'impression aussi que c'est une façon d'infantiliser encore la femme, parce qu'on estime qu'elle ne fera pas le bon choix.
Alors pourquoi vous, c'est important, votre foulard ?
Moi, pour moi, c'est un choix vestimentaire. Je suis bien comme ça. Donc, je m'habille comme ça.
Vous ne voulez pas plus le justifier ?
Non, mais parce que je ne sais même pas comment le justifier. Il va falloir que j'invente. Et puis, comme je déteste me mettre à me justifier, parce que ça me met en position d'infériorité. Parce qu'on ne demande pas aux autres qui ne portent pas pourquoi ils s'habillent comme ils s'habillent. Et comme j'ai envie d'être en égalité, tout comme je vais être en égalité avec les hommes, je vais être en égalité aussi avec vous qui me questionnez. Et si on passe notre vie à se justifier, on ne s'en sort plus, quoi.
Alors, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que quoi qu'il arrive, même si c'est un choix, ça reste le témoignage d'un modèle patriarcal ?
C'est chacun d'où il se place qui juge le comportement de l'autre. Je trouve juste regrettable que ce soit entre femmes, en tout cas, où on se permet de rentrer dans ce jeu-là d'homme, où on nous demande tout le temps de nous justifier. Au final, le vêtement, c'est quelque chose qui permet de montrer ce qu'on veut de son corps. Moi, j'ai décidé de montrer le peu possible. C'est mon choix. C'est vrai qu'on nous a souvent renvoyé ça. Comment vous pouvez mettre le foulard alors que dans les pays arabes, les femmes luttent pour ne plus le mettre ? Comment vous pouvez nous ramener encore la religion alors que nous, ici en France, on a lutté pendant des années contre la religion ? Bah ouais, mais nous aussi, on lutte. On est perçus comme, de toute façon, des femmes aliénées qui ont besoin d'être émancipées, mais dans un modèle qui serait défini par les féministes mainstream. Hein. C'est-à-dire, on s'en fiche de qu'est-ce qui peut, comment on se sent bien ou pas. Il y a un modèle occidental, on veut mettre tout le monde dedans, et quand on refuse de rentrer dedans, donc on est forcément aliéné par la religion. Même si c'est des générations différentes, chacun lutte pour ses libertés. Si en face, ils estiment que ce n'est pas une liberté parce qu'elles ont envie de se dénuder, bah, ma foi, il y en a qui peuvent estimer que c'est une liberté de pouvoir s'habiller en couvrant son corps. Aussi bizarre que ça puisse paraître.
Parce qu'il y a l'idée de la soumission à l'homme.
En tout cas, et le maquillage, il n'y a pas d'idée de soumission à l'homme. Moi, j'aimerais bien savoir si on était dans une société que de femmes, est-ce qu'on se maquillerait? Pourquoi c'est les femmes qui ne se maquillent pas les hommes? Je me maquille par ailleurs, hein, ce n'est pas là le problème. Mais pourquoi me poser la question que sur mon foulard? Il y a autre chose que je fais. Pourquoi je m'habille en rouge? Moi, je suis très couleur vive, par exemple. Pourquoi il m'arrive de mettre des talons? Pourquoi on pense qu'il y a forcément une oppression derrière? C'est ce que je ne comprends pas. Dans des pays, on oblige les gens, tout comme en France, on peut obliger aussi... D'ailleurs, c'est ce qu'on essaie de faire. C'est nous obliger à l'enlever. Pour moi, c'est une oppression. Mais moi, c'est dans ma vie de tous les jours. Hein. Cette lutte-là, c'est au quotidien. Je le vis au quotidien. Au quotidien, je suis en face de n'importe qui mettrait la femme en dessous de l'homme. Je tape sur la table et je dis non, pas d'accord. J'ai énormément de femmes qui justement me sollicitent parce qu'elles savent que j'ai fait des études de théologie musulmane. Et donc dans leur vie de couple ou leur vie, leur rapport à leurs parents, les rapports aux autres, me posent des questions et puis on échange. Et ce que j'aime dans l'échange, c'est ça aussi, c'est donner les outils à l'autre d'être autonome. Pas juste par répondre par oui ou par non. Parce que souvent, les gens sont tentés. Hein. Moi, j'ai des SMS que je reçois comme ça. Telle chose, il est halal ou il est haram. Je dis, c'est pas respectueux. Quand tu veux poser une question, déjà, on m'appelle. Et puis, on échange dessus pour voir.
Qu'est-ce que vous avez demandé, par exemple?
L'exemple concret, c'est le truc de... oui, mais voilà, mon mari me dit, s'il a envie de moi et que moi, j'ai pas de rapport, eh bien, les anges vont me dire toute la nuit. Voilà, je dis, est-ce que dans ce cas, si tu le fais et que t'as pas envie, tu le considères pas comme un viol? Et ça, ça les choque énormément. Parce qu'elles se rendent compte que ce n'est pas possible d'adorer un Dieu comme ça et que tu te dis, celui-là peut te demander d'aller et tu n'as pas envie et d'être soumis à l'envie de l'autre. C'est quelque part, on te force à avoir une relation que tu n'as pas envie. Est-ce que vous pensez que ce Dieu-là que vous dites qu'il est juste peut vous demander de faire ça? D'abord, c'est des questions comme ça. Et puis après, on va dans l'interprétation du hadith qui dit ça. Une femme ne peut être obligée d'aller à l'acte sexuel alors qu'elle n'a pas envie. Non, si elle n'a pas envie, elle n'a pas envie. Un autre exemple, c'est les règles, la puberté, comment c'est considéré chez les femmes, quoi. Beaucoup disent on ne peut pas toucher le Coran parce qu'on est impur. L'idée, moi, ma fille, donc la première, elle va avoir 14 ans, mais dès l'âge de 9 ans, moi, je l'ai préparée, quoi, par rapport au fait qu'elle pouvait avoir ses règles et qu'à aucun moment qu'elle n'accepte qu'on lui dise islamiquement qu'elle est impure. Ça fait partie des choses, pour moi, où il y a inégalité entre les hommes et les femmes. Non, il n'y a pas d'impureté, voilà.
Et alors, elles sont comment, vos filles? Est-ce qu'elles sont déjà féministes?
Écoutez, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a des choses qui les choquent à chaque fois. Comme ma grande, par exemple, dans l'école où elle est, elle a 13 ans, elle va avoir 14 ans au mois de février. Elle est venue une fois, elle m'a dit, mais moi, dans la classe, maman, je suis toujours celle qui est bizarre. Je dis, pourquoi? Elle me dit, parce qu'il y a un de nos profs, on discute, c'est dans le cadre du cours, hein, ils discutent de qui fait les tâches à la maison. Donc, c'est, par exemple, quand on me dit les courses, moi, je dis, papa, en fait, dans la classe, c'est les mères qui font les courses. Le ménage, je dis, c'est papa qui fait. En fait, c'est parce que, une fois de plus, il ne faut pas voir comme si, à la maison, c'est mon mari qui fait tout. Mais c'est cette vision qu'on a, c'est-à-dire que les enfants ont, de qui fait quoi. Je m'explique. Le linge, les enfants y participent parce qu'elles font leur linge aussi. Mon mari fait le linge, les enfants étalent, moi je plie. Mais au final, on va regarder qui fait l'acte d'aller déclencher la machine. Et on dit que c'est papa qui fait le linge. Au départ, ça m'a fait rire. Je lui dis, c'est bien de ne pas être dans la norme, c'est pas grave. Mais à un moment, je lui dis, quand même, tu ne trouves pas ça bizarre de dire qu'il n'y a que ton père qui fait le ménage alors que tout le monde participe à la maison? C'est quand même pas normal.
Très engagée dans les luttes contre le racisme et l'islamophobie, Ndella préside l'association Mamans Toutes Égales, qui soutient les mamans voilées exclues des sorties scolaires. Plus récemment, elle a également participé à la création du collectif Femmes dans la mosquée. Il dénonce la décision de la mosquée de Paris, qui oblige les femmes à prier dans une salle au sous-sol, loin du regard des hommes.
Alors, on ne sait pas ce qui s'est passé. Les dires laissent entendre que l'imam condamnait la promiscuité homme-femme au sortir de la salle de prière et donc qu'il avait dénoncé plusieurs fois dans ses prêches cette promiscuité et donc avait décidé de relayer les femmes au sous-sol. En tout cas, la décision a été prise sans les femmes. On demandait aux femmes de prier au sous-sol. D'ailleurs, quand elles s'aventuraient dans la salle principale, même s'il y avait de la place derrière les hommes, on leur rappelait que la salle de prière était au sous-sol.
Et alors, c'était comment cette salle au sous-sol?
Alors, c'est une grande salle avec des tapis, avec des colonnes, avec des haut-parleurs en guise d'imam, et puis sans fenêtre. Mais alors, le parcours du combattant pour y accéder, et le plus indigne dans cette relégation, c'est que les femmes passent par exemple par des lieux comme la salle des ablutions des hommes. Moi, j'ai trouvé que pour une mosquée symbolique, comme la mosquée de Paris, qui a une réputation de mosquée modérée, puis qu'on consulte quand même souvent, enfin, le gouvernement consulte souvent l'avis de son recteur, Dalil Boubaker, je trouvais qu'en termes d'exemplarité, c'était très limite et qu'on ne pouvait pas laisser passer ça. Les arguments sont que les femmes sont bruyantes, Donc, bon, bah, l'autre argument, c'est un manque de place, mais on a vérifié que c'était un faux argument. Et puis surtout, je pense que l'argument, c'était l'ordre établi par ceux qui dirigent, qui sont essentiellement des mâles et qui ne consultent pas les femmes quand il y a des décisions à prendre.
Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ?
Alors, après avoir envoyé une déléguée rencontrer l'administrateur, qui lui a dit que pour des femmes comme nous, c'est-à-dire des femmes, sages et disciplinées, eh bien, nous pouvions venir tranquillement prier derrière parce que nous n'allions pas faire de remous, en fait. Donc, c'est à ce moment-là que nous avons programmé une prière. Et à la fin de la prière, c'est que l'imam avec qui nous souhaitions discuter est venu nous interpeller pour nous engueuler, comme des petites filles, pour nous dire « c'est illicite de prier ici, pour vous, femmes. Ici, c'est la salle des hommes. » Et donc, bien sûr, ça nous a indignés parce qu'il n'y avait pas de dialogue possible avec lui. Et nous écrivons cette lettre ouverte à Dalil Boubaker. Bon, un mois plus tard, il n'y avait toujours pas de réponse. Donc, nous avons organisé une deuxième prière collective. Et là, ça s'est mal passé. Là, ça s'est plutôt mal passé parce qu'ils ont décidé de mettre un barrage d'hommes en face de la salle de prière. On était à la fois qualifiés de pseudo-fémènes qui faisions le désordre dans les mosquées. Bon, bah, des fémènes qui veulent faire la prière derrière les hommes, j'aimerais bien en voir beaucoup. Et puis d'un autre côté, d'autres remarques, comme quoi nous étions des salafistes. Enfin, évidemment, les femmes ne peuvent pas penser d'elles-mêmes, donc on était commandités par des salafistes pour mettre le trouble dans la mosquée de Paris. Donc, il faut savoir que les femmes dans la mosquée, par l'exposition médiatique, ont été beaucoup attaquées. C'est-à-dire que les problèmes de la communauté musulmane, pour beaucoup, doivent rester dans la communauté musulmane. Je ne suis pas de cet avis. C'est-à-dire que quand il y a des questions d'organisation et quand on a une approche comme la nôtre de condamnation des discriminations, où qu'elles soient perpétrées par dirigeants religieux ou des dirigeants politiques, sont à condamner sur la place publique. C'est-à-dire que c'est ça qui nous permet d'avoir un certain pouvoir vis-à-vis de ces personnes, parce que sinon nous ne sommes rien. Si nous ne sommes que des musulmanes qui venons prier, notre parole ne vaut rien pour eux. Et c'est dérangeant parce que ça vient un peu conforter certains stéréotypes, malheureusement, mais bon, moi je dirais tout simplement que ces stéréotypes ne sont pas propres à la gente masculine musulmane, mais à la gente masculine tout court.
Et là où ça en est maintenant, la salle de prière des femmes est toujours au sous-sol ?
La salle de prière des femmes est toujours au sous-sol, et là, pour l'instant, c'est en cours.
Anan Karimi, 36 ans, chercheuse en sociologie et chargée de cours à l'Université de Strasbourg, fait elle aussi partie du collectif.
Alors moi, je suis née dans une petite ville de Champagne-Ardenne. Je suis troyenne d'une petite commune qui s'appelle La Chapelle-Saint-Luc. Et ce qui était marrant, c'est qu'on avait une mosquée dans cette commune qu'on appelait la mosquée de La Chapelle-Saint-Luc. J'avais 14 ans quand j'ai commencé à fréquenter cette mosquée. Donc je suis fille d'immigrés marocains qui sont arrivés en 75 en France. Maman est restée au foyer, papa travaillait chez Michelin comme OS. Et puis, lorsque j'ai lu le Coran, j'ai ressenti une sorte de solution à ma double culture. Je sentais que j'étais d'ici et d'ailleurs, ou qu'on me renvoyait à un ailleurs alors que je me sentais d'ici. Et la libération de la religion, ça a été de transcender ses appartenances et de n'être plus qu'une combinaison de tout ça, mais d'abord de prioriser finalement le côté religieux.
Si elle reconnaît que de nombreuses femmes se voilent sous la contrainte, elle affirme que c'est loin d'être son cas. Elle dit le porter par choix personnel et réfléchit.
J'ai décidé de porter le voile, j'avais 18 ans. J'ai décidé de porter le voile parce qu'à ce moment-là, alors maintenant c'est la femme de 37 ans qui vous parle, mais à ce moment-là, le voile représentait pour moi une forme d'accomplissement, d'entièreté. Donc ça a été quelque chose qui m'a permis d'être autre chose qu'un corps de femme séduisant. Jusqu'à ce qu'il y ait eu cette crispation au niveau du voile, voile islamique comme le disaient les médias, hein, où là j'ai senti que finalement, même le choix que j'avais fait, à ce moment-là, si c'était un choix stratégique, posait problème, mais ça ne l'a pas délégitimé en fait. Tous ces débats m'ont permis de redéfinir mon voile. Ce voile est devenu tour à tour symbole de résistance, symbole de démarche décoloniale, de conscience de l'agent politique que j'étais. Aujourd'hui, je dirais que le voile est juste un signe, comme quelqu'un pourrait porter une croix ou une kippa, d'appartenance religieuse. Alors, je ne le porte plus comme je le portais il y a 19 ans maintenant. Je le porte en bandeau, je me le suis approprié. Je le vois comme un signe social. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis fonctionnaire de l'État, en fait, je suis contractuelle, et donc, dans mon exercice, je ne me voile pas. J'ai intégré le fait qu'en tant que fonctionnaire de la République, il y a quelque chose de l'ordre du symbolique qui est important dans la neutralité du fonctionnaire. J'ai tellement défendu cette laïcité de 1905 que je comprends aujourd'hui à quel point elle est intelligente. C'est-à-dire que dans un sens hiérarchique, elle prend tout son sens, justement, que dans l'autre. Aujourd'hui, j'ai des étudiantes en face de moi qui sont voilées, d'autres qui ne sont pas voilées. Ils sont tous différents, ils ont tous leurs signes un peu distinctifs, ils essayent de se distinguer les uns des autres. Et ça ne me pose pas problème à moi qui est au niveau hiérarchique au-dessus, parce que justement, j'ai une vue sociale devant moi, c'est la société pas aseptisée ou neutralisée, c'est la société telle qu'elle est, et je fais avec ces individus.
Pour certaines personnes, le voile en soi est anti-féministe et être voilée et féministe, c'est pas possible.
Je dirais que le problème de ce genre de personnes qui catégorisent finalement les individus en disant « non, mais c'est pas possible d'être féministe et voilée », je dirais qu'elle n'est pas à ma place de justement féministe et voilée. Parce que le sens que je mets dans mon voile, peut-être qu'elle n'arrive pas à le saisir justement parce qu'elle le charge d'autre chose. Et je peux le comprendre. Mais il y a des mécanismes, il y a des logiques qui sont encore de l'ordre d'un héritage impérialiste, colonial, esclavagiste. J'ai été l'auteur moi-même de tribunes dans lesquelles je critiquais ce mouvement féministe un peu à l'image de Marianne, blanc, laïque, républicain, un féminisme essentialiste, blanc, universaliste, parce qu'il faudrait qu'on fasse tout comme elles l'ont décidé ou comme elles l'ont gagné sur le terrain. Et si on ne fait pas attention finalement à ces mécanismes qui se répètent, si on ne permet pas d'évoluer ensemble, eh bien finalement, j'ai pas de plus-value dans cette société. Donc au-delà de questions sexuelles, et puis c'est peut-être ça le souci, c'est que finalement la question sexuelle est primordiale. Mais réduire finalement les luttes féministes à des questions sexuelles, moi ça me dérange. Parce que les luttes féministes, à la base, c'est aussi des luttes humanistes. C'est des luttes antiracistes. C'est quelque chose qui concerne, en tant que minorité sexuelle, finalement toutes les minorités humaines. Alors... Est-ce que la religion n'est pas, par essence, finalement, patriarcale ? Et c'est une question que je me pose, à laquelle je n'ai pas encore la réponse aujourd'hui. Je pense que le questionnement, c'est un questionnement d'une vie, en fait. Et c'est peut-être là où notre foi est à l'épreuve. C'est-à-dire, quelle image je mets en Dieu ? Est-ce que c'est un Dieu patriarcal masculin ? Ou est-ce que c'est un Dieu divin, bon, et c'est comme ça que je le vois, vous l'aurez compris, c'est-à-dire c'est un Dieu qui reste à sa place, qui n'est pas là pour servir l'ordre des petits hommes qui sont insignifiants. Parce que je pense que c'est là où il y a eu trahison du religieux, c'est que dans les trois monothéismes, finalement, la religion est venue légitimer un pouvoir patriarcal.
Aux yeux des plus religieux, les féministes islamiques sont bien trop critiques pour être de véritables musulmanes. Au contraire, pour les féministes dites laïques, ces femmes voilées, trop proches de la religion, ne peuvent être crédibles en tant que féministes. c'est la vie de Wassila Tamzali. Pour cette écrivaine et militante féministe algérienne, ancienne dirigeante du droit des femmes à l'UNESCO, le féminisme islamique est dangereux parce qu'il favorise l'islamisation rampante de la société.
Moi, personnellement, en tant que femme, j'hésiterais à m'appeler féministe islamique. D'abord, il faut dire qu'aujourd'hui, l'islamisme, en général, politique, est un courant qui, personnellement, ne me fait pas confiance et m'effraie. Deuxièmement, la question fondamentale, c'est que les féministes islamiques aujourd'hui, qu'on retrouve dans les universités françaises, les universités anglaises, américaines, c'est surtout un courant qui s'est développé maintenant dans les universités, c'est celui-là qui me fait problème, sème une certaine confusion. Parce que, apparemment, quand on les entend, quand on les écoute, elles ont l'air de faire un travail féministe sans adjectif. Elles luttent pour l'égalité. Mais alors là, je me pose la question. Si elles sont féministes islamiques, elles doivent rester dans le cadre de la religion musulmane. Et la religion musulmane, comme toutes les religions, est basée fondamentalement sur le féminin et le masculin. Et je dirais même sans doute que le patriarcat s'est organisé autour de ces deux notions, féminin, masculin. Le féminisme, c'est par définition, la remise en cause de ce féminin et de ce masculin. Alors, comment peut-on être, quand on est féministe, qu'est-ce qu'on fait avec la notion de féminin ? Et si on remet en cause ce féminin et ce masculin, à ce moment-là, pourquoi s'appelle-t-on féminisme islamique ? Je dirais à ces femmes et ces hommes qu'ils jouent avec l'ambiguïté. Et que cette ambiguïté, malheureusement, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'elle ne joue pas en faveur des femmes, mais qu'elles jouent en faveur d'un mouvement beaucoup plus radical et beaucoup plus global et beaucoup plus dangereux et beaucoup mieux organisé que les 3 ou 4 féministes islamiques dans les universités, et dont le projet est de remettre les femmes dans la charia. Je dirais même que je suis contrariée par le titre de votre émission, parce que en même temps, vous apportez de l'eau à leur moulin, et que ce féminisme-là, il ne faut pas l'appeler féminisme islamique, il faudrait plutôt dire que c'est un mouvement qui est aujourd'hui porté au sein des universités par des chercheurs occidentaux et quelques asiatiques, etc. etc. Et qu'aujourd'hui, apporter sa caution à ce mouvement, c'est vraiment extrêmement dangereux pour les femmes. Et évidemment, je ne veux pas mettre le spectre de Daesh derrière, n'est-ce pas ? Mais en perspective, on arrive à des mises en perspective qui conduisent non pas à l'émancipation des femmes, mais au contraire à la domination des femmes, parce que ce qui aujourd'hui est au cœur de ce qu'on appelle la religion musulmane, c'est pas tellement le problème du genre, de l'égalité, de la participation des femmes au travail, parce qu'il y en a dans tous les femmes travaillent partout, mais c'est vraiment la morale sexuelle. Et ce que nous devons, nous, en tant que féministes, nous devons porter notre pensée, nous devons porter notre action sur tout ce qui est lié à la sexualité et sur tout ce qui est lié autour du corps des femmes. C'est pour ça qu'encore une fois, je le répète, le voile n'est pas un signe insignifiant. Je ne veux pas ramener tout le débat à cela, mais c'est un épiphénomène qui nous renvoie à une vision des femmes dans l'islam aujourd'hui, et je ne pense pas que la pensée qui se dit féministe islamique puisse la détruire. C'est une pensée féministe, laïque, basée sur la déconstruction du sujet, la déconstruction de la famille, la déconstruction du discours religieux, la déconstruction du discours nationaliste, c'est très important dans nos pays, qui pourra permettre à une amélioration de la condition des femmes. Et je dirais aux femmes qui se voilent volontairement pour des raisons politiques, c'est-à-dire de dénoncer la culture dominante dans leur pays, je dirais à ces femmes, méfiez-vous parce que vous tombez dans un piège. Quand on utilise un symbole antiféministe, parce que le voile est antiféministe, eh bien on risque de tomber dans un piège et s'enfermer dans un mode de vie antiféministe.
On ne peut pas être voilée féministe.
On peut être voilée et lutter pour la dignité, pour l'égalité des hommes et des femmes, mais on ne peut pas être voilée et féministe, non. Parce que le féminisme, c'est justement une remise en question de tout cela. Quand vous mettez un voile, c'est parce que vous reconnaissez que vous êtes du sexe féminin, et uniquement du sexe féminin. Vous êtes un sexe, Vous n'êtes pas une femme, vous n'êtes pas un individu, vous êtes un sexe. Et parce que vous êtes un sexe, vous mettez un foulard sur votre tête. Voilà ce que c'est. Mais ceci dit, je n'irai pas arracher les voiles dans la rue. Ce qui me gêne, c'est le discours qu'on construit aujourd'hui dans les universités autour du voile. Ça me gêne beaucoup.
Ce mouvement d'être féministe, mais aussi intégré dans un mouvement anticolonial, antiracial, anti-islamophobie, elle se revendique de ça en France. Pour vous, ça ne peut pas marcher.
Non, au niveau de la confusion, je crois qu'on est à une époque qui est le maximum. Pourquoi ? Vous savez, aujourd'hui, dans ces milieux-là, si vous dites universaliste, c'est un gros mot, être universaliste, une injure. Or, je ne vois pas comment on peut dialoguer entre les peuples sans avoir au moins une idée en commun. Quand vous avez aujourd'hui des féministes islamiques qui luttent contre la pensée coloniale, alors qu'elles sont elles-mêmes, elles portent les stigmates de cette pensée coloniale, il ne faut pas oublier que ce sont les Français qui ont fait des Algériens des musulmans, parce que notre nationalité, c'était musulman. Or, moi, je refuse cette nationalité. Je suis algérien, point à la ligne. Je ne suis pas algérienne musulmane. Je suis féministe, point à la ligne. Je ne suis pas féministe musulmane, ni féministe islamique. Et c'est là où je dis où il y a une confusion de la pensée, parce que on entretient tout ça, et c'est à la mode, c'est la pensée à la mode. La pensée à la mode, c'est l'islamophobie, c'est le postmodernisme, c'est le féminisme islamique, et tout ça, c'est évidemment sous le grand chapeau du relativisme culturel. Eh bien, en Europe, c'est pas dangereux, parce que l'Europe est un pays fort, dans lequel on peut tout développer, tout est récupéré de toute façon, tous ces gens-là sont en train de nager dans la crème battue, fraîche. Il n'y a aucun danger. Mais cette confusion, quand elle vient chez nous, dans les pays du Sud, elle est dangereuse, parce qu'elle délégitime notre action.
Pour vous, le féminisme ne peut être que laïque.
Le féminisme peut être porté par des croyants, mais le féminisme participe à la laïcité, dans la mesure où la laïcité s'est fondée sur la liberté de conscience. C'est-à-dire que j'ai le droit de penser ou de croire ou de ne pas croire. Et ma question qui vient en dernier, je la pose aux croyants. Vous êtes croyant, est-ce qu'on peut avoir une conscience libre quand on est croyant ? Est-ce qu'on peut dépasser la religion et trouver dans la spiritualité les moyens de rester dans cette religion, mais en ayant un regard moderne sur la société. Mais il faut poser les questions comme ça.
Qu'on nous a beaucoup reproché, qu'effectivement, on utilisait les femmes musulmanes pour justifier l'islamisme. Non, le féminisme musulman est la troisième voie. C'est un mouvement qui dénonce autant la vision extrémiste et radicale de certains courants musulmans, comme nous dénonçons de la même manière une vision exclusiviste aujourd'hui de la laïcité et du féminisme. C'est un mouvement qui est pris en otage entre ces deux visions exclusivistes, extrémistes et radicales, soit de l'islam, soit de la laïcité et du féminisme.
Talons hauts, rouge à lèvres, féminité assumée, Malika Hamidi porte un voile léger posé sur un haut chignon élaboré. Elle vient de terminer une thèse sur les féministes musulmanes en Europe francophone et dirige le think tank European Muslim Network à Bruxelles. Certains la soupçonnent d'adopter un double discours, voire même d'être une des représentantes cachées de l'islam politique comme les frères musulmans. Malika s'en défend fermement et continue de prôner la réconciliation entre les différents féminismes.
Qu'est-ce que c'est pour vous la vision radicale de la laïcité en France, par exemple ?
C'est promouvoir cette invisibilité de tout symbole religieux dans l'espace public. Là, l'objectif, c'est vraiment d'aller vers cette diversité. Aujourd'hui, dans la rue, vous avez l'exemple du paysage français. La France, aujourd'hui, c'est des Noirs, c'est des Arabes, c'est des Blancs, c'est des voilés, c'est des non-voilés, c'est des bouddhistes, c'est des bonnes sœurs. Et c'est ça, aujourd'hui. Et la France va devoir composer avec toute cette diversité. Mais aujourd'hui, la France a du mal à composer avec toute cette diversité. Donc, on veut l'uniformisation d'une conception de la femme. Et les féministes musulmanes arrivent et brisent en éclats cette conception. Donc, on est consciente que c'est difficile. Je crois que là, on est dans la phase de... Peut-être pas encore de sortie de crise. Ça va être long et difficile parce que plus nous sommes visibles dans la sphère politique, dans la sphère publique ou même à l'université, et plus ça se radicalise en face. Et du coup, ça crée vraiment une exacerbation en face qui n'existait pas il y a quelques années parce que nous n'étions pas visibles. C'est pour ça qu'il a fallu faire en intracommunautaire aussi tout ce travail de confiance en soi. C'est-à-dire de se réconcilier avec sa spiritualité, de dire « il n'y a pas de divorce entre la spiritualité et la citoyenneté, il n'y a pas de divorce entre la spiritualité et le féminisme ». Donc c'est d'abord toute cette confiance en soi, une confiance dans le discours, pour ensuite arriver et être confronté à des débats qui se radicalisent. Les féministes musulmanes sont encore minoritaires. C'est un mouvement protéiforme qui est en train de se structurer d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue des idées, mais vous n'avez pas de mouvement féministe musulman en Europe. Vous avez des féministes ici et là qui sont visibles dans les médias, dans le champ politique, dans le champ académique de plus en plus, dans les mouvements transnationaux. On a des femmes qui sont en train de se mettre en connexion, qui font circuler le savoir au-delà des frontières européennes. C'est vraiment l'idée de dire on va créer des alliances, on va créer cette coalition de femmes ensemble, on va créer finalement ce féminisme sans frontières cher à toutes.
Ce féminisme sans frontières, c'est ce qu'aimerait atteindre le collectif Féministes pour l'égalité. Il est composé de musulmanes, de chrétiennes et d'athées, de femmes voilées et non voilées, de jeunes féministes et de plus anciennes issues du mouvement de libération des femmes. Ensemble, elles créent le collectif en 2004, suite à la loi interdisant tout signe manifestant une appartenance religieuse à l'école.
C'était affirmé qu'il n'y a pas un seul modèle de femme libérée, que les chemins de la construction des identités émancipées le plus possible de femmes eh bien, sont multiples. Et qu'il n'y a pas un référentiel féministe universel écrit une fois pour toutes quelque part dans le monde qui a à le construire. Et de ce point de vue-là, pour nous toutes, la loi de mars 2004 a été vraiment une déflagration, en tout cas pour moi, de me dire, mais enfin, des gamines vont être exclues de l'école publique parce qu'elles portent un foulard. C'est juste quelque chose qui est à l'opposé. Je dirais, l'école publique ne choisit pas son public. Enfin, en tout cas, c'était un slogan. Et pour moi, ça le reste.
Oui, non, mais voilà. Et c'est vrai qu'il y a aussi des logiques qui sont à l'œuvre, qui fixent de manière éternelle le féminisme comme étant une émanation des sociétés donc libérées du religieux. Et surtout, notamment occidentalo-centré. Voilà. Comme si, en fait, dans les autres espaces culturels ailleurs, il n'y avait pas de mouvement féministe depuis des siècles, d'ailleurs.
Mais du coup, ce faisant, moi je crois quand même qu'on dénonce les formidables instrumentalisations auxquelles a donné lieu le mouvement féministe, qui n'a jamais été homogène, il faut encore une fois le rappeler. Il n'y a pas eu un féminisme, il y a toujours eu énormément de débats. Et il y a toujours eu au sein du féminisme des systèmes de domination qu'on avait dénoncés à l'époque comme étant des systèmes de domination de classe. Lorsque Monique Piton, en pleine grève de l'IP, comme ouvrière syndicaliste, prend la parole, elle ne se reconnaît pas dans Elisabeth Badinter ou je ne sais qui, qui sont plutôt des intellectuelles bourgeoises. Donc la question des tensions internes au mouvement des femmes n'est pas nouvelle. Là où nous, on est actuellement confrontés à quelque chose qui est la récupération du féminisme en un véritable féminisme d'État. Et ça, c'est quand même assez terrible.
Pourquoi vous dites ça, par exemple ?
Bah, y a une espèce de doxa féministe qui est portée, relayée par les institutions et qui, du coup, a opéré une véritable entourloupe entre féminisme et laïcité, en considérant que c'est consubstantiel, qu'en gros, la laïcité est à l'origine du féminisme, ce qui est un non-sens, et que le féminisme doit produire de la laïcité, ce qui n'est pas son objet premier.
Pour nous, la laïcité, c'est la loi 1905. Elle reconnaît les cultes, elle reconnaît les convictions religieuses, mais par contre, c'est la séparation des églises et de l'État. La loi de 1905 était pensée pour justement appliquer ce principe, en fait, aux fonctionnaires et aux édifices.
Il n'y a pas de signes religieux ostensibles, c'était uniquement pour les fonctionnaires.
Les édifices, les établissements aussi devaient être neutres pour accueillir tout le monde, mais ce principe en fait de neutralité n'a jamais été pensé pour s'appliquer aux usagers, parce que par définition, c'est bien parce que l'État est neutre que l'usager n'a pas à l'être. Et là, depuis 20 ans,
on remobilise une interprétation qui ampute cet esprit de liberté et de pacification de la société, et on brandit en fait comme un étendard contre une partie de la population française, à savoir les citoyens de confession musulmane.
Féministe et voilée, Isman Chouder est la présidente du collectif.
Ce qui m'a interrogée, moi, c'est plutôt en fait d'avoir à faire ce travail, d'aller me confronter en termes d'argumentaire à la façon et aux questions en fait qui m'étaient posées par rapport à la question de la contraception, l'avortement, la polygamie, en fait toutes ces questions en fait qui sont mobilisées à longueur de temps par les féministes. La contraception, elle figure déjà de fait dans le Coran, puisque justement elle est nommée comme ça dans un but de régulation des naissances. Et par rapport à l'avortement, alors, on trouve par exemple des choses qui prévoient l'avortement, y compris dans le cas où par exemple une femme tombe enceinte et elle ne se sent pas ni la force ni la volonté de mener une grossesse à bien, y compris dans ces cas-là, l'avortement a été prévu et codifié. Si je me souviens bien, ça fait 120 jours. Donc 120 jours, on est à 4 mois de grossesse.
Donc en fait, en tant que féministe islamique ou collective, vous pourriez très bien aller manifester dans la rue demain pour soutenir l'avortement, enfin, ou qu'il y ait plus de centres d'IVG en France, par exemple.
Ah ben, nous y avons été d'ailleurs. En 2005, pour l'anniversaire de la loi Veil, nous battions le pavé avec d'autres collectifs féministes. Sauf qu'on nous a lancé au visage reproché, durant ces manifestations, de développer un double discours, une double position, juste pour donner des gages en fait, de bonne appartenance ou de certificat de bon féminisme.
Et sur la question de l'homosexualité, par exemple, parce que l'islam condamne l'homosexualité, comment vous pouvez vous positionner, vous, en tant que féministe?
Ah ben là, ça c'est compliqué, mais moi ce que je mobilise, c'est que là, il faudrait peut-être sortir en fait de cette espèce d'injonction qui assigne les musulmans à toujours se positionner, voilà, sur des thèmes qui sont quand même polémiques ou sur lesquels d'aucuns s'arc-boutent finalement pour désigner l'arriération supposée ou avérée de ces musulmans. Et moi, le préalable que je dis, c'est que, dans l'islam, tout concourt à dire, noir sur blanc, que ce qui prévaut, c'est la dignité humaine et le respect des choix de chacun. Et que si on part de ce principe, je suis aux côtés de tout homosexuel qui est menacé dans ses droits et qui est discriminé. Maintenant, l'homosexualité en tant qu'orientation sexuelle, j'ai un avis, mais c'est un avis qui ne vient pas impacter la liberté, en fait, de cet individu, parce que pour moi, c'est d'abord un individu qui a fait un choix, et en cela, il est respectable en tant qu'être humain. Après, on peut discuter, comme on peut discuter par rapport à moi, par exemple, sur pourquoi le choix de mon foulard.
Et alors du coup, vous dites féministe, féministe musulmane, féministe islamique, vous ne définissez pas?
Alors maintenant, 10 ans après, je me dis féministe, sans adjectiver en fait ce terme. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que le fait de l'adjectiver nous sort du commun, c'est-à-dire nous sort de ce qu'il est possible de faire collectivement. Parce que dans féministe musulmane, bien souvent, certaines et certains ne vont garder que musulmane. Dans d'autres contextes, dans féministe musulmane, certains et certaines ne vont garder que féministe. Et finalement, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que deux paramètres qui me sont essentiels parce qu'ils sont constitutifs de ma trajectoire et de ce que je suis maintenant, finalement, vont s'annihiler l'un et l'autre. Donc résolument, je dis que je suis féministe.
Merci à Leïla Alaouf, Ndella Paye, Anan Karimi, Wassila Tamzali, Malika Hamidi, Isman Chouder et les membres du collectif féministe pour l'égalité. Merci aussi à Sonia Dayan-Herzbrun et Stéphanie Latabdala. Attachée de production, Christine Bernard et Alison Sinard. Coordination, Irène Omelianenko. Mixage, Pierrick Charles. Féministe islamique. Un documentaire de Charlotte Bien-Aimée, réalisé par Annabelle Brouard pour Sur les Docs.